potestas eius. Potestas Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Le 11 décembre 1925, Pie XI décréta la fête du Christ roi. Et il soulignait dans son encyclique Quas Primas qu'il s'agissait de lutter contre, disait-il, la peste du laïcisme, en affirmant la royauté sociale du Christ sur toutes les nations, croyantes ou non. Les fruits attendus, ou tout au moins espérés, étaient de hâter le retour de l'humanité vers le Christ par l'apostolat et réparer l'apostasie publique de la société. Je vous rappelle qu'à cette époque, c'était la montée du communisme, l'émergence des nationalismes. La date choisie, le 31 octobre, plaçait la fête juste avant la Toussaint, car il s'agissait donc de souligner la dimension séculière de la royauté éternelle du Christ avant de tourner les âmes vers la célébration de sa royauté céleste. Plus tard, la réforme liturgique déplaça la date au dernier dimanche de l'année liturgique. Nous y sommes. Par cela, l'Église prenait acte de son échec à juguler le mouvement profond de déchristianisation qui marquait les nations modernes, et elle faisait ainsi de la fête du Christ roi, plutôt, un appel à méditer sur le jugement dernier, comme en témoigne l'évangile choisi à cette occasion, le chapitre 25 de Matthieu. Et l'aspect social était sauvegardé par l'invitation à la compassion et à l'engagement humanitaire, comme en témoigne l'évangile proposé. Par le témoignage de cette compassion et de cet engagement auprès des plus pauvres, l'Église espérait des hommes qu'ils reconnaissent à travers ses œuvres sociales la royauté du Christ et découvrent à quelle destinée les hommes étaient appelés. Malheureusement, le résultat ne semble guère plus brillant aujourd'hui qu'en 1962. La société contemporaine, tout au moins en France, pour ce que nous en savons, veut cloîtrer l'Église dans ses sacristies pour qu'elle n'occupe pas le champ social, à moins de renoncer à tout ou en partie de sa foi ou de sa morale. Dès lors, une question se pose. L'Église doit-elle choisir entre le désir utopique d'une restauration de la société chrétienne ou celui de survaloriser, comme un palliatif et un désir de reconnaissance, l'engagement caritatif parce que l'annonce publique et explicite de la foi lui est refusée? Nous savons bien que la solution ne se trouve ni dans une volonté de reconquête, ni dans la dissolution dans un humanisme inodore et sans saveur. Il faut pourtant, dans notre société et dans notre monde aujourd'hui, faire droit à la royauté du Christ. Mais de quelle façon? Les textes liturgiques, me semble-t-il, peuvent nous éclairer par les trois dimensions de cette royauté du Christ qu'il souligne. La première dimension, la royauté du Christ est un pastorat. Le Christ roi est pasteur. Que ce soit la première lecture ou le psaume, le Seigneur est manifesté comme le pasteur qui prend soin de ses brebis. Et l'Évangile lui-même inscrit la notion de jugement dernier et de royauté comme un acte pastoral au sens professionnel du terme, rassembler et discerner les brebis des boucs. La deuxième dimension, c'est celle du mystère pascal. Saint Paul le souligne dans l'Épître aux Corinthiens. La royauté du Christ est révélée dans sa mort et sa résurrection pour le salut du monde. Le royaume de Dieu est ainsi déjà réalisé et pourtant encore à venir. Déjà réalisé parce que le Christ est ressuscité et à venir car nous attendons le jour du jugement, le jour où, dit Saint Paul, le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père après avoir détruit toutes les puissances du mal et ressuscité les morts. Enfin, c'est le troisième aspect, dans l'Évangile, la royauté du Christ s'exprime comme une sollicitude à l'égard des petits, ce que nous appelons souvent dans nos cercles ecclésiaux les blessés de la vie, quel que soit d'ailleurs, le cas échéant, la responsabilité personnelle qu'ils porteraient de leurs blessures. Une sollicitude qui habite l'humanité tout entière, sans distinction de race et de religion. Il rassemble toutes les nations. Et qui pourtant, cette sollicitude, s'adresse au Christ, parce que le Christ s'identifie à ses petits, qu'il appelle ses frères. Il est à noter d'ailleurs que le jugement décrit ne porte pas sur les actions mauvaises, mais sur les actes de bonté et de miséricorde qui sont posés ou qui n'ont pas été posés. Le Fils de l'homme ne s'intéresse qu'au bien. Dieu ne s'intéresse qu'au bien. C'est sur le bien et sur l'amour que nous serons jugés. Si les actions de nourrir, de désaltérer, d'accueillir, de vêtir, de visiter et de se rendre proche sont des actions matérielles qu'il nous faut poser, elles sont aussi porteuses de réalités spirituelles loin d'être secondaires dans l'attention aux pauvres que nous devons avoir. Lorsque l'Église déploie sa charité, elle ne se contente pas de faire de l'humanitaire. Elle déploie pour le monde dans lequel elle vit l'action pastorale du Christ. En revêtant le pauvre, elle appelle à revêtir le Christ. En abreuvant l'assoiffée, elle permet que se réitère la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. En visitant les prisonniers, elle annonce, tel Jésus à Jean-Baptiste, que les temps messianiques sont accomplis. En rassasiant les affamés, elle invite au pain de vie. Sa compassion est un appel à la convivialité dans l'éternité bienheureuse, comme nous le rappellent les béatitudes. On ne peut donc appréhender le royaume de Dieu et la royauté du Christ comme un simple projet de société, on les reçoit au contraire comme une réalité existentielle de foi, de charité et d'espérance, comme une présence du Christ à rencontrer. Et c'est bien ce que dit le pape François en s'adressant aux catholiques dans son exhortation apostolique sur l'évangile de la joie. C'est les numéros 197 et 201. La pire discrimination dont souffrent les pauvres, écrit-il, est le manque d'attention spirituelle. L'immense majorité des pauvres a une ouverture particulière à la foi. Ils ont besoin de Dieu. Et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. L'option préférentielle pour les pauvres continue-t-il, doit se traduire principalement par une attention religieuse privilégiée et prioritaire. La conversion spirituelle, l'intensité de l'amour de Dieu et du prochain, le zèle pour la justice et pour la paix, le sens évangélique des pauvres et de la pauvreté sont requis de tous. Je crains, poursuit-il, que ces paroles fassent seulement l'objet de quelques commentaires sans véritables conséquences pratiques. Malgré tout, j'ai confiance dans l'ouverture et dans les bonnes dispositions des chrétiens et je vous demande de rechercher communautairement de nouveaux chemins pour accueillir cette proposition renouvelée. En ayant entendu dans l'évangile de ce jour les exigences du royaume, en recevant l'appel de notre pape, eh bien, quel nouveau chemin prendra notre communauté paroissiale pour concrétiser ce qu'elle demande chaque dimanche dans la prière adressée au Père, que ton règne vienne? Et comment chacun d'entre nous en prendra-t-il la route? Que l'Esprit Saint nous éclaire et que Marie, l'humble servante vers laquelle le Seigneur s'est penché, nous y aide. Amen.